Bonjour à tous. Et oui, les Jeux Olympiques sont à la une, mais ils ne doivent pas nous faire oublier ce qui se passe dans le monde, notamment si Moyen-Orient. Donc continuons à prier pour Israël, mais continuons aussi à prier pour ces Jeux Olympiques jusqu'au bout. Je crois que c'est vraiment important. Donc comme tout le monde le sait, cette cérémonie d'ouverture a fait couler beaucoup d'encre et je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et moi, à titre personnel, il y a des choses qui m'ont vraiment touché par rapport à la ville de Paris. Il y a des images vraiment fortes, mais bien sûr, il y avait aussi des choses navrantes, mais bien sûr, absolument pas surprenantes. Par contre, la parole, elle nous dit effectivement de condamner les œuvres stériles des ténèbres. Et ça a été fait. Et je voudrais juste vous lire un passage en lien avec ce que je viens de dire. Ça se trouve dans Éphésiens 5. Ne prenez point, au verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses ou stériles des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Déjà condamnez les œuvres et pas les hommes et les femmes qui les commettent. Et condamner, dans le grec, c'est réfuter, c'est amener à la lumière, exposer. Et moi je crois à titre personnel que l'Église a bien fait d'élever sa voix au niveau mondial, parce que le silence peut être synonyme d'indifférence. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça, mais pendant le temps de louange, j'étais fortement touché. Ça m'est revenu cette cérémonie, et je me suis mis comme à la place des enfants qui regardaient cette cérémonie. Là, je disais pardon Seigneur pour le spectacle qui a été offert aux enfants. Il y avait pas seulement ce défilé et tout ça, mais il y avait aussi d'autres endroits, des choses qui étaient vraiment pas à la gloire de Dieu. Et là, je me dis waouh, un enfant. Pour moi, c'était presque un abus par rapport aux enfants qui ont regardé le spectacle. Et donc, les gens, ils savent très bien que c'est tout public, tout le monde va regarder ça, y compris des enfants. Et là quelque part ça m'a touché, et je crois que c'était vraiment important simple de d'amener ça à la lumière et de dire qu'on a été choqué. Mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin aujourd'hui, et dans ce même chapitre un peu plus loin, il est dit d'abord condamner les œuvres infructueuses des ténèbres, et ensuite un peu plus loin il est dit: prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Là, tiens, ça revient à nous. Condamnez les œuvres des ténèbres, et ensuite, regarde ta propre conduite. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, et donc... Je vous renvoie, voilà, à ce qui a été aussi montré à ce spectacle, avec Dionysos et ainsi de suite. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, moi j'aimerais mettre l'accent sur cette deuxième partie, pas sur la condamnation des œuvres des ténèbres, ça a été fait largement, je pense, au niveau médiatique. Mais la deuxième partie, prenez donc garde de vous conduire comme des sages. Et cette sagesse, bien sûr, on la trouve seulement en Jésus-Christ, parce que c'est en lui que se trouvent tous les trésors de la sagesse. Et donc, comment peut-on se conduire comme des sages? Comment peut-on marcher sur le chemin de la sagesse? C'est logiquement et tout simplement en grandissant, en croissant dans la connaissance de Christ et dans la ressemblance à Christ. Sachant que la connaissance à Christ, on va le voir plus tard, c'est une connaissance par expérience. C'est pas intellectuel comme tout le monde le sait. Alors, je vous propose ce matin de nous intéresser à la deuxième pépite de Pierre. Et Pierre dit tout au début, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Mot-clé connaissance. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Est-ce que tous les jours on réalise qu'on est au bénéfice des plus grandes et plus précieuses promesses qui aient jamais existé ? Je continue. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Est-ce qu'on réalise tous les jours qu'on est participant de la nature divine? Ça, ça touche à notre identité. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Fuir. Ça, on le sait, il y a un combat de convoitise dans le monde. Qu'est-ce que tu convoites dans ta vie? Qu'est-ce que tu convoites? Et je voudrais juste qu'on reste un peu, comme je l'avais fait lors de mon précédent message, qu'on reste un peu dans cette métaphore du sport. Et comme vous le savez, un athlète qui est en préparation au JO, lui, il fuit tout ce qui est mondain, il fuit la vie mondaine. Toute sa vie est centrée sur sa préparation, sur son objectif, la médaille. Je continue au niveau de 2 Pierre. Et il dit, à cause de cela même, on pourrait dire, mais à cause de ces promesses, de votre identité divine, faites tous vos efforts. Ah. Faites tous vos efforts. Là, on retrouve de nouveau le style de vie d'un athlète qui doit faire tous ses efforts. Faites tous vos efforts. Donc là, au JO, on a parlé de décathlon, heptathlon, triathlon. Hein, il y avait des discussions, est-ce que la Seine, on peut y aller ou pas. Donc ça a eu lieu. Et ben, j'aimerais juste faire un tout petit peu d'humour, mais Pierre, il nous encourage à pratiquer ce que j'appellerais l'octathlon. L'octathlon. 8 disciplines, l'octathlon. Et effectivement, Pierre va nommer 8 disciplines, 8 domaines dans lesquels il est important que nous grandissions. Et avant cela, donc, il dit, faites tous vos efforts pour joindre. Pour joindre à ça, il faut joindre ça, puis il faut joindre ça, puis il faut joindre ça. Le mot grec, le mot joindre, veut dire, en grec, c'est epikoregeo, ça veut dire ça. Et c'est intéressant ce que ça veut dire. Ça veut pas trop dire joindre. Je sais pas pourquoi ça a été traduit de cette manière-là. Ça veut dire pourvoir avec générosité. Ça veut dire approvisionner, fournir, présenter. Pourvoir avec générosité. Et, epikoregeo, vous avez le mot choral. Effectivement, c'est vraiment intéressant. Vous aviez dans la culture grecque, vous aviez beaucoup de spectacles antiques, et donc vous aviez ce qu'on appelle des chorèges, c'est-à-dire des gens, des citoyens qui étaient souvent très riches, qui recrutaient et entretenaient des choristes, qu'on appelait aussi des choreutes, et pour qu'ils fassent un spectacle. Et eux, ils étaient donc chargés de les entretenir, de pouvoir à leurs besoins, pour qu'ensuite les choristes soient dans la plus grande forme possible, pour avoir une très belle prestation. Et en fait aussi, il y avait de la compétition. Et le mécène, si on veut, lui, il voulait bien sûr que sa troupe gagne, pour ensuite se dire, ma troupe est la meilleure. Donc je trouve que c'est intéressant parce que le mot, il évoque, il y a une notion de générosité et en vue d'un spectacle majestueux. Ça, c'était l'objectif. Et quand on voit aussi la somme colossale que la France a dû investir pour ce spectacle des Jeux Olympiques, moi, quelque part, ça fait tilt par rapport à ma propre vie, mais et toi, ok, ce spectacle, tu l'as trouvé à bien des égards en avant. Quel est le spectacle de ta vie que tu donnes aux autres? C'est quoi ton spectacle? Le spectacle. Et les différents choristes, les différents domaines que Pierre nomme, est-ce que tu les entretiens? Est-ce que quelque part le spectacle que tu vas donner ensuite, il va être à la gloire de Dieu au quotidien? Ça, c'est une question que je vous propose d'étudier aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça vous le savez dans Éphésiens 2:10 où il est dit « Nous sommes son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous ». C'est le grec « poema », ça veut dire ouvrage, hein, mais ça donnait plus tard « poème ». Donc quelque part, il y a aussi une notion un peu artistique qu'on retrouve bien sûr plus tard. Mais notre vie est un spectacle, est un spectacle. Quel est le type de spectacle que tu veux présenter aux autres? Donc, pour cela, il faut... Et ça, c'est Pierre qui le dit, il faut entretenir certains domaines dans ta vie. Et il en nomme 8, c'est pour ça que je dis octathlon, 8 domaines qu'on est appelé à développer. Alors, tout d'abord, donc il dit, faites tous vos efforts pour joindre, ou fournir, approvisionner à votre foi la vertu. La foi, déjà. Premier choriste à entretenir dans la chorale de ta vie, la foi, évidemment. Et là, j'aimerais peut-être vous dire quelque chose qui va vous surprendre, mais je crois, c'est le cas de le dire, qu'un athée a plus de foi que moi. Tout simplement parce que je crois qu'un athée a une foi qui est bien plus déraisonnable que la mienne. C'est Paul qui dit, quand il discute avec Festus, il dit « Les paroles que je donne sont des paroles de vérité et de bon sens. » Déjà il dit « Ce sont des paroles de bon sens » et après il lui dit « Mais tu ignores tout ce qui s'est passé. » C'est que Paul, lui, c'était un témoin. Et c'est vrai que l'Église orthodoxe, notamment, s'est positionné récemment en disant « Oh là là, il y a une culture athée qui se propage en Europe ». Effectivement, c'est un combat quand même contre cette puissance spirituelle de l'athéisme. Et j'ai vu une petite vidéo d'un monsieur chrétien qui était, je pense, sur un campus universitaire et qui développait ce point-là et ça m'a beaucoup touché. Et il disait à quel point les athées, finalement, ils croyaient au miraculeux, sans croire au Dieu des miracles. C'est pour ça que leur foi, elle est encore plus déraisonnable. Il disait, premier miracle auquel les athées croient, c'est que l'existence provient de la non-existence. Ça, c'est un premier miracle déjà auquel ils croient. Deuxième miracle auquel les athées croient, c'est que l'ordre provient du chaos. Comment expliquer ça? Troisième miracle, la vie provient de l'absence de vie, selon eux. Quatrième miracle, la dimension individuelle provient d'une dimension non individuelle, d'un univers un peu froid. Cinquième miracle, la raison humaine, la raison provient de l'absence de raison. Et sixième miracle, la moralité, les valeurs morales qu'on a proviennent de la matière. Ça, c'était pour la foi. Donc, quelque chose d'évident, bien sûr. Mais n'oublions pas aussi que, comme un corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, il faut rajouter d'autres choristes. Et le deuxième choriste qu'il faut rajouter dans la chorale de ta vie, c'est ce qu'on appelle la vertu. C'est ce qui dit Pierre. La vertu, donc là, c'est assez clair, c'est l'excellence morale. L'excellence morale, la bonté morale. D'accord ? Je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est cohérent quelque part. Troisième choriste, la science. La science, ça veut dire, donc si on prend l'étymologie du mot grec, c'est connaissance. Connaissance de la foi chrétienne, mais ça veut aussi dire, intéressant, sagesse morale qui est montrée dans une manière de vie droite. Et là, on a bien sûr la théorie et la pratique qui sont entremêlées et qui nous font souvent défaut. C'est l'orthodoxie, c'est-à-dire je me plie à ce que la Bible dit, et ensuite l'orthopraxie, je pratique ce qui est conforme à la parole. Les deux vont de pair. Quatrième choriste dans ta vie, la tempérance. La tempérance, qui veut dire, en l'étymologie, c'est la maîtrise de soi. Et là, c'est intéressant parce que, à l'époque de Pierre, on parlait on utilisait ce terme grec pour évoquer des athlètes qui devaient se discipliner. On était déjà dans la métaphore du sport. Donc, maîtrise de soi, par rapport à ses passions, les appétits des sens, ainsi de suite. Cinquième choriste, la patience. Marie-Christine, elle est là, Marie-Christine, elle en a parlé, Marie-Christine avait raison. Parce que Marie-Christine a dit que ce terme voulait dire plutôt persévérance ou endurance. Et je crois que tu t'étais basé sur la Bible anglaise, si mes souvenirs sont bons. Mais le grec confirme tout à fait que ça veut dire plutôt endurance, persévérance. Et là aussi c'est intéressant parce que il est question là de quelqu'un qui ne s'écarte pas de son projet, de son but, malgré les douleurs, malgré les épreuves de sa vie. Quelqu'un qui ne s'écarte pas de l'objectif. Et là, j'avoue qu'il y a une personne qui m'est venue en tête, et qui pourrait recevoir une médaille d'or dans ce domaine, c'est Huguette. Ça m'est venu tout de suite. J'ai dit, Huguette, tu t'écartes pas de ton but, malgré les douleurs, t'es là, tu t'écartes pas de ton but. Et pour moi, c'est médaille d'or, médaille d'or. Médaille d'or spirituelle, et c'est aussi un témoignage pour les autres générations aussi que nous représentons. Donc merci Huguette pour ce témoignage. Sixième choriste à avoir dans ta chorale, la piété. La piété est là. C'est simplement une attitude, enfin simplement, c'est énorme, c'est juste facile à comprendre, c'est une loyauté, un respect profond envers Dieu. Et alors après vous dire oui mais c'est simple tout ça, mais parfois on peut être léger, en pensée, en parole, en acte, on peut être aussi familier, un peu léger à ce niveau-là. Donc soyons aussi vigilants. Avant-dernier choriste, avant-dernière discipline sportive, si on veut, Philadelphia, l'amour fraternel. L'amour fraternel, et ça veut dire littéralement, c'est l'amour des chrétiens qui s'aiment comme des frères et sœurs. Là aussi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que j'ai d'autres choses à dire, mais je pense que ça peut être bon de profiter aussi de l'été, aussi pour s'inviter les uns les autres, aussi pour vivre cette communion fraternelle aussi en dehors du culte. Et enfin, le dernier choriste, peut-être le plus beau, c'est agapé. C'est le terme agapé, c'est cet amour, bienveillance, qui... C'est cet amour suprême, c'est ce terme qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 13, et qu'on est appelé aussi à vivre. D'ailleurs, Éphésiens 3, 19 nous dit qu'on est appelé à connaître l'amour, c'est agapé de Christ, qui surpasse toute connaissance en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça passe par la connaissance de l'amour agapé de Christ. Maintenant, Pierre, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ces 8 disciplines, à ces 8 choristes, si on veut? Il dit, c'est au verset 8, hein, on est au premier chapitre de la deuxième épître de Pierre. « Car si ces choses, c'est-à-dire ces 8 disciplines-là, sont en vous, et si elles y sont avec abondance, déjà, normalement, elles devraient quand même y être un peu, on est né nouveau, mais est-ce qu'elles y sont avec abondance? Ou bien est-ce qu'il y a un choriste que j'ai un peu délaissé par rapport à l'autre? Peut-être un que j'ai un peu, qui était un peu plus mon chouchou. Si elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif. Déjà, oisif, en termes argos, ça veut dire en loisir, évitant le travail à faire. Paresseux. Elles ne vous laisseront pas, donc, paresseux, et elles ne vous laisseront point stériles. On retrouve les œuvres stériles des ténèbres. Elles ne vous laisseront pas stériles, c'est le terme akarpos, qui veut dire ne produisant pas ce qu'il doit rapporter. Qui ne produit pas ce qu'il doit rapporter. Et bien sûr qu'on ne veut pas être dans cet état-là si on veut fournir un beau spectacle de notre vie aussi devant le roi des rois et devant ses créatures. Akarpos, regardez Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent akarpos. Infructueuse. J'aurais envie de dire que parfois, en période estivale, ben, ça peut parfois guetter à notre porte. Un peu la séduction des richesses ou parfois les loisirs, c'est très bon d'en avoir, mais parfois ça peut prendre un peu trop de place dans notre esprit et au détriment de notre vie spirituelle. Et la chose intéressante, il dit, car si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Pourquoi? Pour votre bonheur, pour améliorer ta vie spirituelle, non? Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'objectif suprême. Et c'est quand même intéressant de noter le lien entre ces 8 points, ces 8 choristes, ces 8 domaines, et la connaissance de Christ. C'est comme, si vous voulez, c'est le but, il y a le programme d'entraînement, et le but, connaître Christ. C'est... Donc en s'appliquant quelque part à vivre, à développer ces 8 domaines, ben, on se rapproche de plus en plus de ce but qu'est la connaissance de Christ. Et comme je l'avais dit avant aussi, connaître Christ, ça ne se limite pas à l'intellectuel, ça se fait, c'est une connaissance personnelle aussi par expérience, orthopraxie, par la pratique, et surtout par la pratique. D'ailleurs, Paul nous dit la chose suivante, il nous dit, dans l'épître aux Philippiens. Je regarde toute chose comme une perte. À cause de quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Les athlètes, ils renoncent à tout. Durant leur préparation, ils renoncent à tout. Et il dit un peu plus loin, parce que je vais trouver en lui, non avec ma justice, mais avec la sienne, objectif, afin de connaître Christ. Ça, c'est toujours l'objectif. Connaître Christ. Et il dit un peu plus loin, donc il dit connaître Christ, la puissance, sa résurrection, la communion de ses souffrances, devenir conforme à lui dans sa mort. Et ensuite, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Ah, l'athlète. Pour tâcher de le saisir. Connaissance de Christ, ça c'est l'objectif suprême. Donc, on est appelé à développer ces 8 disciplines. Et on a, bien sûr, le coach suprême, on a le Seigneur. Mais on a aussi d'autres coachs, ce sont les 5 ministères. Et là, parce qu'il est dit aussi dans Éphésiens, il est dit qu'ils sont là pour notre perfectionnement. Et jusqu'à ce qu'on soit parvenu à l'unité de la foi, et de quoi? Et de là connaissance de qui? Du Fils de Dieu. Oui, ça converge toujours vers le même objectif. Et il est dit d'ailleurs, afin qu'on parvienne à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Pour moi, l'état d'homme fait, ça parle aussi de notre cœur et donc de ce qu'on vit, de notre style de vie, du spectacle de notre vie. Et Pierre, il va encore plus loin. Vraiment, la deuxième épître de Pierre, c'est vraiment une épître d'avertissement. Il nous dit, mais celui en qui ces choses ne sont pas, il est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc si je résume, si on ne développe pas ces choses, si on ne les entretient pas, si on ne les cultive pas, il peut y avoir de l'oisiveté spirituelle, la stérilité spirituelle, une sorte de cécité spirituelle, on est quelque part aveugle, et une sorte aussi d'amnésie spirituelle. On met en oubli la purification de ses anciens péchés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En tout cas, moi, ça m'a fait penser à la grâce, à l'oubli de la grâce, quelque part cette grâce incomparable de Dieu, parce qu'il est dit dans l'épître de Tite que c'est la grâce de Dieu qui nous incite, qui nous exhorte à vivre selon la piété. Ah, tiens, c'est un des choristes. La piété, respect profond de Dieu. C'est la grâce qui nous encourage, qui nous exhorte à le faire. Donc quelque part, si tu n'es pas dans le développement de ces 8 domaines, est-ce que quelque part, là, il y a quelque chose qui cloche au niveau de la révélation de la grâce? Hein, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et Paul, d'ailleurs, dans cette même épître de Tite, il nous dit, on est justifié par grâce. On est héritier de la vie éternelle. Il dit, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses. Pourquoi? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. S'appliquer. Il faut qu'on s'applique. Et là, ça parle de performance, ça parle d'œuvre, hein, performance sportive, spirituelle. S'appliquer. Et d'ailleurs, je reviens à la deuxième épître de Pierre. Il dit dans la foulée, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous. Hein, comme Paul le dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Broncher, ça veut dire, un synonyme c'est péché, mais ça veut dire aussi, si on prend le grec, tomber dans la misère. Tomber dans la misère. Trébucher, c'est aussi tomber dans la misère. C'est ce qu'on veut bien sûr éviter. Et il dit ensuite Pierre, et je trouve ça quelque part touchant, il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Il dit, je vous les rappelle, bien que vous les sachiez, vous connaissez, on connaît ça. Mais je vous les rappelle, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente, et il va plus loin. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans mon corps, de vous tenir en éveil. De vous tenir en éveil. Parce que je pense que dans les 8 domaines nommés, parfois, il y a un domaine qui peut être un peu endormi. Un ou plusieurs domaines qui peuvent être endormis. Parce que tout se cultive, s'entretient. Comme les muscles, quelque part. Tenir en éveil, bien sûr que ça fait penser... Là, je me projette un peu loin, mais à la fête des chauffards aussi, qui aura lieu, je crois, début octobre, un des objectifs de cette fête, c'est amener le peuple à un réveil spirituel, un éveil, un réveil spirituel. Donc, restez réveillés. Parce qu'il y a des domaines qui peuvent comme rester inexploités en jachère. Et là, regardez ce qu'il dit, Pierre. Je sais que je la quitterai subitement, cette tente, son corps, ainsi que notre Seigneur me l'a fait connaître, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Et là, je suis en train de lire son épître. J'aurai soin que vous puissiez la lire. Et il a réussi quelque part, c'était son objectif, et je trouve c'est touchant. Et on est là maintenant en 2024 à lire ses avertissements quelque part. Alors maintenant, on pourrait se dire, hey, mais qu'est-ce qu'il nous envoie comme message là, la figure, il faut être performant, faut faire des œuvres, oh là, il y a un peu de dolorisme, il faut souffrir, hein. N'oublions jamais qu'avec Dieu, il y a toujours une double action. Une double action, mais pas une action unique, double action. C'est Jacques qui dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc quelque part, on doit toujours faire notre part, et Dieu fera la sienne. Et ça va m'amener au-delà. Vous prenez un athlète, en ce moment je crois qu'il y a, il y a l'athlétisme, l'athlète souvent il tourne sa tête, il est dans le stade, il tourne sa tête vers le coach, ou il va le voir, mais donc le coach le conseille, et ainsi de suite, mais... Nous, on a le coach, le maître parfait, par définition, et lui, il va au-delà de cela. Bien sûr qu'il peut nous conseiller par son Saint-Esprit, nous guider, mais ce qui est beau, je vous ai parlé de double action de Dieu, c'est que le coach, et ça c'est quelque chose que vous ne voyez pas, les Olympiques, il peut agir en nous. Il peut agir en nous. Regardez ce que dit Paul dans Colossiens 1:29. C'est à quoi je travaille, il travaille. Et d'ailleurs, vous prenez le terme grec, donc il dit, pardon, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et c'est le terme, pardon, combattre. Si vous prenez le terme grec, ça veut dire, et c'est très fort, ça veut dire agoniser. Ça veut dire, le terme grec a donné en français agoniser et servait à décrire l'effort demandé aux athlètes, justement. Et donc c'est vraiment aller jusqu'au bout, quoi, hein, l'épuisement, je donne tout ce que j'ai. Par contre, Paul, en même temps, il était conscient que Dieu agissait en lui. Il dit, en combattant avec ma force, non, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Sa force, pas la mienne, mais moi je bosse, mais avec sa force qui agit puissamment en moi. Gloire à Dieu. Alors, en guise de conclusion, je voudrais juste vous parler d'une athlète que j'ai pu rencontrer avec les élèves de seconde à Stuttgart début juin. Je vous avais parlé de ce rêve que j'avais fait parce que le directeur m'avait demandé d'accompagner des élèves de seconde à Stuttgart et je savais pas trop. Et j'avais fait ce rêve dans lequel il y avait la police allemande qui a tiré avec son harpon sur la plaque d'immatriculation de la voiture. Et je savais pas trop ce que ça voulait dire. Et finalement, à un moment donné, ça fait tilt. Je dis, oh là là, attention, il faut vérifier si on n'a pas besoin d'une vignette écologique. Et effectivement, c'était nécessaire. Sinon, on aurait pu avoir une amende entre 70 et 100 euros. Dans mon rêve, je crois que c'était 72 euros. Donc, on l'a pas eu. On l'a pas eu, cette contravention. Ça montre aussi que Dieu s'intéresse aux détails. Ça, voilà. C'est notre Père. C'est notre Père parfait. Donc, et là-bas, donc on visite l'établissement, et comme vous le savez peut-être, le sport, c'était notre thématique de l'année à l'établissement Daniel. Et là, on nous annonce à Stuttgart, vous savez quoi, demain matin, il y aura une grande conférence avec une athlète australienne qui va participer aux Jeux Olympiques, et c'est une chrétienne, donc vous êtes cordialement invité. Ah, excellent, tombe bien. Et cette athlète, elle a donné son témoignage, et ça a été touchant, et elle s'appelle Nicolas en australien, je sais pas, Oliagers. Et elle a distribué comme ça des cartes aux élèves sur lesquelles il y avait un seul verset que je vais vous donner. Et ce verset se trouve dans 1 Jean, la première épître de Jean. Et c'est intéressant parce que si vous prenez le contexte de 1 Jean, il y a un combat contre des gnostiques, c'est-à-dire des gens qui avaient une philosophie qui était complètement opposée à la parole, mais qui estimaient que leur philosophie, elle était au-dessus de la parole. Et que c'était leur philosophie, qui était bien sûr réservée ici uniquement à des initiés, c'est elle qui pouvait juger la parole. Et d'ailleurs, tiens, quelque part, voilà, une philosophie qui juge un peu la parole, je vous renvoie aussi en ce qu'on a vu ces derniers temps. Et elle disait quelque part qu'elle était en proie à des craintes. depuis qu'elle s'était mise au sport aussi, et elle avait peur de rater sa vie, déjà de passer à côté de quelque chose. Elle avait aussi peur de décevoir son entourage. Elle avait peur, c'est le cas de le dire, de ne pas être à la hauteur. Elle avait peur parce qu'il y avait même, à un moment donné, elle voulait vraiment devenir professionnelle. Et il y a la fédération australienne qui lui a dit, on ne sait pas trop. Même son entourage a commencé à la faire douter. Est-ce que tu es sûr que c'est pour toi? Et elle a persévéré. Et le verset qu'elle a relevé, qu'elle a noté sur cette carte, c'est 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et elle avait vraiment un témoignage qui était fort parce qu'elle disait, vous savez, on l'a vu début juin, là je vais avoir grosso modo 6 semaines de préparation, peu importe ce qui va se passer. Je vais peut-être me blesser, peu importe. Moi, je suis dans mon identité de fille de Dieu. J'ai ma sécurité affective dans le Père, peu importe ce qui se passe. Et ça, bien sûr, c'est une force. Et le matin même où elle était là, elle nous a raconté que à 6h du mat, il y a des gens qui ont toqué à la porte. Elle dormait chez une enseignante collègue, une enseignante allemande. Ça toque à la porte, contrôle antidopage. Vous voyez, donc on plaisante pas, hein, on plaisante pas avec les athlètes. Mais elle avait ce fondement qui était en elle. Et elle est devenue championne du monde, là en 2024, championne du monde de saut en hauteur. Et là, ce soir, à 19h55, elle va participer à la finale. Donc j'aimerais bien voir ça pendant quelques minutes. Et moi j'ai regardé quelques vidéos, et ce qui m'a frappé, c'est que, vous savez, donc au début, elle fait du saut en hauteur, alors les athlètes soient, alors ils demandent au public d'applaudir, de les encourager. Ce qui m'a frappé chez elle, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, ou plus précisément dans son esprit, mais quand elle s'apprête à sauter, elle a un grand sourire. C'est genre, j'y vais, mais moi le message quelque part qu'elle dégage, c'est j'y vais, mais je suis dans mon identité, je suis là avec mon Père Céleste, peu importe ce qui se passe, mais il prend plaisir en moi je prends plaisir en lui, et je trouve ça vraiment magnifique. Alors, oui, c'est ce verset qui dit aussi, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, quelles que soient aussi nos contre-performances, même dans les domaines que j'ai nommés en d'autres, voilà, l'idée, c'est pas de... La question, c'est le coach de notre vie, le maître de notre vie. Comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois comme un coach aimant, un coach qui te bienveillant, ou bien un coach père fouettard, quoi, quelque part. Et on sait que les meilleurs coachs, bien sûr, ce sont ceux qui sont exigeants. Pierre, quelque part, là, c'est assez exigeant ce qu'il nous donne. Faites tous vos efforts, c'est quand même exigeant, d'accord. Mais il y a la bienveillance du Père qui entoure tout cela. Et qui veut notre bien parce qu'il ne veut pas qu'on trébuche, il ne veut pas qu'on tombe dans la misère. Et en guise de conclusion, j'aimerais vous lire la fin de la deuxième épître de Pierre. Donc cette épître que j'appellerai l'épître de l'avertissement. Vous donc, c'est au verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Parce que oui, parfois on peut... Je le dis pour moi, je le sais, on peut parfois baisser notre garde dans certains domaines. On est humain. Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Là, on retrouve cette fermeté à laquelle Pierre nous encourage. Sois ferme, discipliné quelque part. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que le risque auquel quelque part... Le risque que Pierre nous montre, c'est que si on ne s'entraîne pas, si on ne cultive pas cette vie spirituelle, notamment ces 8 domaines, si on ne s'entraîne pas, c'est qu'on risque alors d'être entraîné. Si tu ne t'entraînes pas, tu risques d'être entraîné, et bien sûr entraîné par d'autres. Et il dit enfin, au verset 18, « Mais croissez dans la grâce ». Très intéressant. D'abord, grandissez dans la grâce d'abord. La bienveillance du Père, mais croissez dans la grâce et ensuite dans la... connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.